Chapitre 4 L'éducation de Pierre. Il y a des êtres prédestinés pour les douceurs et les sublimités de l'amour, d'un amour accompagné de peine et d'inquiétude, des êtres pour lesquels le souci du chagrin d'autrui constitue comme l'atmosphère propre et comme un besoin organique. La nature les dota au préalable de cette sérénité, faute de laquelle aucun acte de la vie journalière ne serait possible. Elle adoucit avec prévoyance les élans, les aspirations de leur vie personnelle, en pliant ces élans et ces aspirations aux traits dominants de leur caractère. Souvent, les organisations de ce genre paraissent trop froides, trop raisonnables, même dépourvues de tout sentiment. Elles sont sourdes aux appels suppliants et ardents de nos passions et marchent dans l'austère chemin de leurs devoirs aussi tranquillement que si c'était celui du bonheur personnel le plus éclatant. Elles paraissent froides comme des cimes couvertes de neige et aussi grandioses que ses sommets. La bassesse de la vie rampe à leurs pieds, la calomnie et les médisances elles-mêmes glissent sur leurs vêtements d'une blancheur de neige comme des éclaboussures de boue sur les ailes d'un cygne. La petite amie de Pierre réunissait en elle tous les traits de ce type qui s'élabore rarement par l'éducation. Comme le talent, comme le génie, il n'échoit qu'aux natures d'élite et se fait jour de bonheur. La mère du petit aveugle comprenait quel bonheur l'occasion avait envoyé à son fils dans cette amitié d'enfant. Le vieux Maxime le comprenait aussi. Il lui semblait qu'à présent son pupille possédait tout ce qui lui avait manqué jusque-là, et que maintenant le développement psychique de l'aveugle allait progresser d'une allure égale et tranquille, sans secousse aucune. Mais quelle erreur amère était la sienne! Pendant les premières années de la vie de l'enfant, Maxime pensait qu'il se rendrait absolument maître de son développement psychique et que, même si ce développement ne s'effectuait pas sous son influence directe, du moins et en tout cas, aucune phase nouvelle, aucun nouveau progrès n'en échapperait à sa surveillance et à son contrôle. Mais quand l'aveugle arriva au point qui tient le milieu entre l'enfance et l'adolescence, Maxime s'aperçut combien ses orgueilleux rêves pédagogiques était dépourvu de fondement. Presque chaque semaine apportait quelque chose de nouveau, parfois de tout à fait inattendu, et quand Maxime s'efforçait de trouver les sources de quelque idée nouvelle, de quelque nouvelle notion qu'il constatait chez l'enfant, il se perdait en conjectures. Une force inconnue travaillait dans la profondeur de cette âme enfantine, en faisant vieillir des manifestations imprévues d'un développement psychique indépendant, et Maxime se voyait obligé de s'arrêter, avec un sentiment de vénération, devant les influences mystérieuses de la vie qui se mêlaient ainsi à son œuvre pédagogique. Ces secousses de la nature, ces révélations spontanées, provoquaient, semble-t-il, chez l'enfant, des conceptions que l'expérience personnelle eût été impuissante à fournir à un aveugle, et Maxime devinait ici le lien indissoluble des phénomènes de la vie qui évoluent éparpillés en mille processus à travers la série consécutive des existences individuelles. Tout d'abord, cette constatation effraya le maître. En reconnaissant qu'il n'était pas seul à influer sur l'organisation intellectuelle de l'enfant, qu'il se trouvait en elle des éléments indépendants qui échappaient à son autorité, il eut peur pour le sort de son pupille. Il craignit pour lui la possibilité d'aspiration qui ne se traduirait chez l'aveugle que par des souffrances inapaisables. Et il essayait de trouver l'origine de ces sources qui jaillissaient il ne savait d'où, afin de les fermer pour le bien de son neveu. Ces traits de lumière inattendus n'échappèrent pas non plus à l'attention de la mère. Un matin, Pierre accourut vers elle dans un état de trouble extraordinaire. « Maman, maman » criait-il, J'ai vu un rêve. Qu'est-ce que tu as donc vu, mon fils? Dit-elle avec une tristesse, intonation de doute dans la voix. Bien, j'ai rêvé que je vous voyais, toi et l'oncle Maxime. Et encore, quoi donc encore? Je ne me rappelle pas. Et de moi, t'en souviens-tu? Non, dit le garçon avec hésitation. J'ai tout oublié. Et tout de même, j'ai vu, je t'assure que j'ai vu, ajouta-t-il après un moment de réflexion. La chose se reproduisit à plusieurs reprises, et chaque fois l'enfant devenait plus sombre et plus inquiet. Un jour, en traversant la cour, Maxime entendit, dans le salon où se donnait l'habitude des leçons de piano, des exercices musicaux de nature étrange. Ils consistaient en deux notes. D'abord des coups pressés consécutifs, presque confondus, frappés sur le clavier, faisaient entendre la note la plus claire du haut registre, vite remplacée par le grondement d'une note basse. Curieux de savoir ce que pouvaient signifier ces singuliers exercices, Maxime s'approcha clopin-clopant et entra dans le salon. Il s'arrêta comme cloué à la porte devant le tableau qui s'offrit à ses yeux. L'enfant, qui avait déjà 8 ans passés, était assis au pied de sa mère sur une chaise basse. À côté de lui, le cou tendu et promenant de tous côtés son bec allongé, se tenait debout une jeune cigogne domestique dont Joachim avait fait présente au panitch. Celui-ci lui donnait à manger chaque matin dans ses mains, et l'oiseau accompagnait partout son nouveau maître et ami. En ce moment, Pierre tenait la cigogne d'une main, tandis qu'il lui caressait doucement de l'autre le cou et le corps, avec l'expression d'une tension extrême sur son visage. Sa mère, la figure animée, les yeux tristes, frappait vivement de ses doigts le clavier et tirait de l'instrument une note élevée et continue. En même temps, légèrement penchée sur sa chaise, elle scrutait avec une attention maladive le visage de l'enfant. Et quand la main de celui-ci, glissant sur les plumes d'une blancheur éclatante, arrivait à l'endroit où elles sont remplacées brusquement par des noires, aux extrémités des ailes, Anna Mikhailovna transportait d'un coup sa main sur une autre touche, et une note profonde et basse roulait sourdement dans la pièce. Tous les deux, la mère et le fils, étaient tellement absorbés dans leur occupation qu'ils ne s'aperçurent pas de l'arrivée de Maxime, jusqu'au moment où, revenu de sa stupéfaction, il interrompit la séance en demandant « Anna, mais qu'est-ce que cela signifie ?» La jeune femme, ayant rencontré le regard scrutateur de son frère, se troubla, comme surprise en flagrant délit par le sévère professeur. Mais vois-tu, fit-elle toute confuse, il dit qu'il distingue une certaine différence dans les couleurs de la cigogne. Cependant, il ne peut pas comprendre en quoi elle consiste. Et je t'assure que c'est lui le premier qui en a parlé, et je crois que c'est vrai. Eh bien, et alors? Eh bien, je voulais lui faire comprendre un peu cette différence par la différence des sons. Ne te fâche pas, Maxime, mais je t'assure, je trouve qu'il y a là beaucoup d'analogies. Cette idée mise en avant frappa Maxime d'un tel étonnement que tout d'abord il ne sut que dire à sa sœur. Il lui fit répéter ses expériences, et après avoir bien examiné l'expression tendue du visage du petit aveugle, il secoua la tête. Écoute-moi, Anna, dit-il, quand il se trouva seul avec elle. Il ne faut pas soulever chez ce garçon des pourquoi auxquels jamais, au grand jamais, tu ne pourras faire une réponse complète. Mais puisque c'est lui qui en a parlé le premier, je t'assure, interrompit la mère. Puis n'importe, l'enfant n'a qu'une seule ressource, c'est de s'habituer à sa cécité. Et nos efforts doivent tendre à ce qui ne suppose jamais de questions sur la lumière. Bon, moi je fais ce que je peux pour qu'aucune influence extérieure ne l'incite à des questions insolubles. Et si nous pouvions arriver à écarter ces influences, il ne pourrait s'apercevoir que des sensations lui manquent, pas plus que nous, qui possédons 5 sens, nous sommes affligés de n'en pas avoir un 6e. Comme toujours, la sœur fut convaincue par les raisons de son frère. Mais cette fois, ils se trompaient tous les deux. En essayant d'écarter les influences extérieures, Maxime oubliait les impulsions puissantes déposées dans l'âme de l'enfant par la nature elle-même. Les yeux, a dit quelqu'un, sont le miroir de l'âme. Il serait peut-être plus juste de les comparer aux fenêtres par lesquelles font irruption dans l'âme les impressions de l'éclatant et chatoyant monde des couleurs. Qui peut dire quelle est dans notre complexion psychique la part qui revient aux impressions lumineuses? L'homme est un anneau de la chaîne sans fin des existences qui se déroule en passant par lui des profondeurs du passé vers l'avenir infini. Et voilà que, dans une de ces chaînons, une fatalité a fermé ses fenêtres. Toute la vie doit s'écouler dans l'obscurité. Mais cela veut-il dire que dans cette âme sont brisées pour toujours les cordes par lesquelles l'âme humaine répond aux impressions lumineuses? Non! Et même à travers cette existence obscure, devait aussi passer, pour devenir l'apanage des générations futures, l'impressionnabilité intérieure par rapport à la lumière. Cette âme était une âme humaine, entière, avec toutes ses facultés. Et comme toute faculté porte en elle-même une tendance à se satisfaire dans l'âme obscure de l'enfant, persistait également une aspiration inassouvie vers la lumière. Quelque part, dans les profondeurs mystérieuses, gisaient intactes des forces reçues en héritage et sommeillantes sous la brume confuse des possibilités et prêtes à se porter à la rencontre du premier rayon lumineux. Mais les fenêtres restent fermées. Le sort de l'enfant est décidé. Il ne verra jamais la lumière du soleil. Toute sa vie se passera dans les ténèbres. Mais ces ténèbres étaient peuplées de fantômes. Si l'enfant avait vécu dans le besoin et dans la peine, cela aurait peut-être détourné sa pensée vers les causes extérieures de souffrance. Mais ses proches avaient écarté de lui tout ce qui pouvait le chagriner. On lui avait procuré un calme et une paix absolue, et ce calme même lui rendait plus sensible la détresse de son âme inquiète et inassouvie. Au milieu de la tranquillité et des ténèbres qui l'entouraient, s'érigeait la conscience confuse et incessante d'une aspiration qui cherchait vainement à se satisfaire, et il sentait le besoin de donner une forme aux forces qui sommeillaient en lui sans trouver d'issue. De là, des pressentiments, des élans confus, pareils aux désirs de vol que chacun éprouve dans l'enfance et qui se traduisent à cet âge par des rêves si délicieux. De là, enfin, ces tensions instinctives de sa pensée enfantine qui donnaient à ses traits l'expression d'une interrogation maladive. Ces possibilités héréditaires des impressions lumineuses qui n'étaient pas encore éveillées dans la vie personnelle de l'enfant se dressaient comme des fantômes dans cette petite tête, sans forme, indistincte, obscure, et provoquant en lui les efforts poignants et confus. Toute la nature s'insurgeait dans une protestation inconsciente contre ce cas individuel qui violait la loi commune. Ainsi, malgré tous ses efforts pour écarter les influences extérieures, Maxime n'arrivait jamais à détruire la pression intérieure d'une aspiration non satisfaite. Tout ce qu'il pouvait gagner par sa circonspection, c'était de ne pas l'éveiller avant le temps, de ne pas augmenter les souffrances du jeune aveugle. Quant au reste, le triste sort de l'enfant devait suivre son cours avec toutes ses dures conséquences. Et ses conséquences se manifestaient déjà sous la forme d'un sombre nuage. La vivacité naturelle de l'enfant s'émoussait de plus en plus avec les années, comme une onde qui reflue, tandis que la mélancolie confuse mais incessante de son âme s'accentuait et influait sur son tempérament. Son rire, qui résonnait pendant son enfance à chaque impression nouvelle et particulièrement forte, se faisait à présent entendre de plus en plus rarement. Tout ce qui portait le cachet de l'enjouement, de la gaieté, de l'humour, lui était peu accessible. Mais en revanche, tout ce qui était confus, indéfinissablement triste, nébuleusement mélancolique, tout ce qui se murmure dans la nature et se reflète dans les chansons populaires, il le subissait avec une plénitude merveilleuse. Des larmes lui venaient aux yeux lorsqu'il entendait dans la prairie la tombe causer avec le vent, et il aimait aller lui-même dans les champs pour écouter leur entretien. De plus en plus se développait en lui le penchant pour l'isolement, et quand, dans ses heures de liberté, il s'en allait tout seul faire sa promenade, les siens évitaient de porter leurs pas de ce côté pour ne pas troubler sa solitude. Assis sur un tertre des steppes, ou sur une petite colline au bord de la rivière, ou enfin sur la falaise qu'il connaissait si bien, il n'entendait que le frôlement des feuilles ou le murmure de l'herbe, ou les soupirs indéfinissables du vent. Tous ces murmures s'harmonisaient particulièrement avec les dispositions de son âme. Autant qu'il pouvait comprendre la nature, c'est là qu'il la comprenait complètement et à fond. Ici, elle ne l'inquiétait pas à aucune question indéfinie et insoluble. Ici, ce vent s'insinuait directement dans son âme, et il semblait que l'herbe lui murmurait de tendres paroles de compassion. Et quand le cœur de l'adolescent, en communion intime avec la douceur qui l'entourait, s'amollissait à cette tiède caresse de la nature, il sentait que quelque chose se soulevait dans sa poitrine, affluant et s'épanchant dans tout son être. Il se jetait alors sur le gazon frais et humide et versait doucement des larmes, mais des larmes sans amertume. Parfois, il prenait le chalumeau et s'oubliait complètement en composant des mélodies rêveuses qui s'accordait avec les dispositions de son âme et la douce harmonie des steppes. On comprend que tout bruit humain survenant inattendu dans un pareil état d'âme le troubla comme une dissonance aiguë et maladive. En ces moments-là, on ne peut communier qu'avec une âme tout à fait proche et sympathique, et l'aveugle n'avait qu'un seul ami de son âge, la blonde fillette de la métairie voisine. Et cette amitié s'affermissait de plus en plus de part et d'autre. Si Evelyne introduisait ainsi dans leur rapport réciproque son calme, sa douce joie, si elle initiait Pietruccia à des nuances nouvelles de la vie qui les entourait, lui, en retour, partageait son chagrin avec elle. Il semblait que leur première rencontre eût laissé au cœur délicat de la Fayette une plaie sanglante. Enlevez d'une plaie le poignard qui a porté le coup et tout de suite le sang coulera. Lorsqu'elle avait fait la connaissance du petit garçon sur la colline au milieu des steppes, Evelyne avait ressenti pour la première fois la souffrance aiguë de la compassion et maintenant sa présence lui devenait de plus en plus indispensable. Séparée de lui, la douleur aiguë de cette plaie qui s'ouvrait, semblait-il de nouveau, lui revenait plus vive et il lui tardait de revoir son petit ami afin de soulager sa propre souffrance par les soins qu'elle lui prodiguait. Un jour, par une chaude soirée d'automne, les deux familles se trouvaient réunies sur la terrasse devant la maison et admiraient le ciel étoilé qui apparaissait bleu d'un azur profond et qui brillait de mille feux. Comme d'habitude, l'aveugle était assis à côté de son ami, près de sa mère. Tout le monde se tut pour un instant. Le silence était profond autour de la métairie. Seules, les feuilles imperceptiblement agitées murmuraient de temps en temps quelque chose d'indistinct. En ce moment, un météore surgit des profondeurs de l'azur foncé, passa dans le ciel sous la forme d'une flèche lumineuse et s'éteignit doucement, après avoir laissé pour un instant derrière lui une trace phosphorescente. La mer, appuyée contre le bras de pierre, le sentit frissonner. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-il en tournant vers elle son visage ému. C'est une étoile filante, mon enfant. Ah oui, une étoile, dit-il d'un air pensif. Je le savais. Mais comment pouvais-tu donc le savoir, cher fils? Demanda la mère avec une triste expression de douleur dans la voix. Non, il dit la vérité, intervint Evelyne. Il sait beaucoup de choses comme ça. Cette finesse des sens qui se développait de plus en plus prouvait à elle seule que le garçonnet approchait sensiblement de l'âge critique qui sert de transition entre l'adolescence et la jeunesse. Mais au demeurant, son développement s'effectuait d'une manière assez tranquille. Il semblait même s'être habitué à son sort, et sa mélancolie étrangement équilibrée, mélancolie sans espoir mais aussi sans élans aigus, qui était devenue le fond ordinaire de sa vie, s'était à présent un peu adoucie. Mais ce n'était là qu'une accalmie temporaire. On dirait que la nature donne exprès de ces répits grâce auxquels un jeune organisme se repose et amasse des forces pour une nouvelle tempête. Pendant ces accalmies, s'élaborent et mûrissent insensiblement de nouveaux besoins. Une seule secousse et tout le calme de l'âme sera bientôt bouleversé jusqu'au fond, comme la mer sous le coup d'une rafale abattue sur elle à l'improviste.